Radio Vatican, France et Afrique.
Amis auditeurs, bienvenue à cette nouvelle édition de notre programme. Nous ne pouvons pas revenir à la fausse sécurité des structures politiques et économiques que nous avions auparavant. C'est l'un des passages importants de l'entretien accordé par le pape François à l'agence de presse argentine TELAM. Nous y reviendrons dans cette édition. Pour le mois de juillet, le Saint-Père nous invite à prier pour que l'expérience et la sagesse des personnes âgées aident le jeune à regarder l'avenir avec espérance. La communauté congolaise catholique de Rome, heureuse de célébrer la messe dimanche avec le Saint-Père, le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin, attendu dans un Sud-Soudan en plein processus de paix. Nous y reviendrons dans l'actualité de l'Église avant de nous rendre dans l'Église Famille de Dieu au Cameroun, au Nigeria et au Bénin. Les manifestations se poursuivent au Soudan contre le pouvoir militaire. La task force Takuba se retire du Mali. Plus de détails dans l'actualité sociopolitique. Encore une fois, bienvenue et bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la Cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Christian Combé.
Le Saint-Père a accordé un entretien à l'agence de presse argentine TELAM. Dans cette conversation où il a abordé une variété des questions, de la pandémie aux soins de la maison commune, des jeunes à son engagement en politique, de l'Église en Amérique latine à la crise des institutions, le souverain pontife est notamment revenu sur le thème de la guerre et de la gestion des crises et a tenté de faire le bilan de son pontificat. Françoise Niamien.
Nous ne pouvons pas revenir à la fausse sécurité des structures politiques et économiques que nous avions auparavant. C'est l'un des passages les plus significatifs de la longue interview accordée par le pape François à Bernarda Lorente de la principale agence de presse argentine TELAM. Le pape a commencé par aborder la question centrale de la manière dont les crises sont ou ne sont pas traitées, rappelant que si l'on décline cette tâche, les crises se transforment en conflits. Une guerre, malheureusement, c'est une cruauté par jour. À la guerre, on ne danse pas le menuet, on tue, a souligné amèrement le souverain pontife qui a accusé une nouvelle fois la structure de vente d'âmes qui favorise la guerre. Il y a le droit de se défendre, mais il faut repenser la façon dont le concept de guerre juste est utilisé aujourd'hui, a déclaré François, attirant une nouvelle fois l'attention sur l'importance de savoir s'écouter même, simplement, dans la vie quotidienne pour pouvoir dialoguer et dissiper toute possibilité de conflit. L'évêque de Rome a par ailleurs exprimé sa désillusion face à l'incapacité de l'ONU à les arrêter. Il a invité à une philosophie de l'altérité pour vaincre les maux de notre temps. Le narcissisme, le découragement et le pessimisme. Dans le bilan de presque 10 ans de pontificat, François a la conscience d'avoir agi comme un catalyseur des exigences du Collège des cardinaux. Le pape a notamment évoqué la situation de son Amérique latine natale, l'invitant à se libérer des impérialismes exploiteurs par la promotion de la rencontre entre le peuple et la souveraineté.
Dans son intention de prière pour le mois de juillet, le Saint-Père invite à prier pour que l'expérience et la sagesse des personnes âgées aident les jeunes à regarder l'avenir avec espérance. Le pape François rappelle que les personnes âgées ont une grande responsabilité envers les nouvelles générations. Cette intention de prière, présentée par la vidéo du pape, coïncide avec la célébration de la 2e journée mondiale des grands-parents et des personnes âgées qui aura lieu le dimanche 24 juillet à Rome et dans tous les diocèses du monde autour du thème « Ils portent encore des fruits dans la vieillesse ». Les audiences générales du mercredi du Saint-Père, comme d'habitude, sont suspendues pour tout le mois de juillet. Ils reprendront le 3 août 2022. La communauté congolaise de Rome se prépare avec joie et enthousiasme à la participation dimanche 3 juillet en la basilique Saint-Pierre à la messe présidée par le pape François après le report de son voyage en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud à une date ultérieure pour des raisons de santé. L'abbé Sylvestre Adesengue, aumônier de la communauté catholique congolaise de Rome, se réjouit de la présence et de la célébration d'une messe en cette même date par le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin à Kinshasa. On l'écoute.
Au niveau de la communauté congolaise catholique de Rome, nous avons accueilli cette annonce avec beaucoup de joie et satisfaction. D'autant plus que quand le pape devait se rendre à Kinshasa, beaucoup d'entre nous aurait souhaité être là présent comme communauté, mais n'ayant pas eu l'occasion de s'y rendre, cette opportunité nous a été d'une grande joie et une bénédiction pour la communauté. Nous rendons grâce à Dieu tout en demandant la mobilisation de toute la communauté d'être présent et prier en communion avec nos frères qui sont à Kinshasa.
Effectivement, parce que les frères qui sont à Kinshasa participeront aussi le dimanche 3 juillet à la messe qui sera présidée par le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin.
Cette présence du cardinal Parolin à Kinshasa, au Congo, s'inscrit dans le sens de la consolation de ce peuple qui a été souffrant en attendant la visite des papes envoyés à une ultérieure date. La présence de légat des papes sera une grande consolation pour ce peuple qui attend beaucoup de cette visite. Avec Kinshasa et la République démocratique tout entière sera en prière le 3 juillet à Kinshasa et dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Le pape a voulu qu'à cette heure-là, là à Kinshasa et au Vatican, à Rome, que nous soyons unis et célébrer ensemble son attachement, sa volonté d'être en communion, de vivre, de marcher ensemble et puis de compatir au peuple congolais qui est dans des difficultés, des guerres.
L'abbé Sylvestre Adesengue, aumônier de la communauté catholique congolaise de Rome, dans des propos recueillis par Marie-Josée Moindo. Pour ceux qui aimeraient suivre en direct sur les ondes courtes la messe du Saint-Père avec la communauté catholique congolaise de Rome le dimanche 3 juillet, elle sera diffusée sur le canal 15 610 kHz. La paix au Soudan du Sud doit être promue et doit être vécue, et c'est pourquoi le pape François a envoyé son représentant, le cardinal secrétaire d'État Pietro Parolin, dans ce pays qui a besoin d'être encouragé et soutenu dans le fragile processus de paix en cours. C'est ce qu'a déclaré Mgr Christian Carlassare, évêque de Rumbek au Sud-Soudan. Le cardinal Parolin arrive à un moment important. Il rencontrera les dirigeants politiques afin de leur apporter le soutien du souverain pontife pour sortir le Soudan du Sud de la crise en respectant l'armistice signé en 2018 par le président Salva Kiir et son adjoint Riek Machar, a affirmé l'évêque combonien, précisant que le pays attend toujours le pape. Le cardinal secrétaire d'État sera au Sud-Soudan du 5 au 8 juillet. Il célébrera la messe à Djouba au mausolée du docteur John Garang le jeudi 7 juillet. L'archevêque de Rabat au Maroc, son éminence le cardinal Cristobal López Romero, est à Douala pour une visite fraternelle. Il a présidé la messe des ordinations diaconales et presbytérales le 29 juin 2022 en la cathédrale des saints apôtres Pierre et Paul de Douala, et le 30 juin 2022, il s'est entretenu avec le presbytérium de l'archidiocèse de Douala dans le cadre de la coopération missionnaire qui existe entre Rabat et Douala. Le compte-rendu de Paul Valéry Mendogo.
Le cardinal Cristobal López Romero a ordonné 10 prêtres et 8 diacres aux côtés de l'archevêque de Douala, Mgr Samuel Kleda. Dans une homélie en 10 points, l'archevêque de Rabat a invité les nouveaux prêtres et diacres à considérer le sacerdoce ministériel dans son sens réel, un appel à servir comme le Christ toute personne humaine et à orienter toutes leurs actions vers la construction du royaume de Dieu.
Le principal, ce n'est pas l'Église, c'est le royaume de Dieu. Pour que la paix, la justice, la liberté, la vie, la vérité, l'amour grandissent en chacun de nous, dans toutes les familles, dans tous les pays, dans l'Afrique, dans le monde entier. C'est ça que tout chrétien a comme mission, travailler pour le royaume des cieux.
L'archevêque de Rabat a par ailleurs entretenu les prêtres de Douala sur la protection des personnes en migration.
Le pape nous a donné 4 verbes au sujet de ce que nous devons faire avec les personnes, parce qu'ils ne sont pas des migrants, sont des personnes en migration. Hein? Et il nous a dit, il faut les accueillir, il faut les protéger, il faut les promouvoir et il faut les insérer.
Et il a invité toutes les forces vives de l'Afrique à épargner aux Africains la douloureuse expérience des migrations clandestines. Paul Valéry Mondogo, DDA, pour Radio Vatican.
Direction le Nigeria, un mois après le massacre d'une quarantaine de personnes dans l'église Saint-Francis dans la ville d'Owo, les évêques de la province ecclésiastique d'Ibadan, qui regroupe les diocèses du sud-ouest du Nigeria, ont appelé à une prière spéciale pour les victimes de l'attaque meurtrière de la Pentecôte. Nous demandons que de prières spéciales et un jeûne soient observés exactement un mois après l'événement, le mardi 5 juillet 2022, ont-ils exhorté dans une déclaration rendue publique le 27 juin. Le programme de prière proposé par l'épiscopat de cette partie du Nigeria comporte 5 parties. Une lecture de la Bible et la réflexion, une méditation du rosaire, si possible en procession, une prière contre la corruption au Nigeria, une prière pour le pays en détresse et la conclusion avec célébration eucharistique ou l'adoration et la bénédiction. Le diocèse de Porto Novo au Bénin a accueilli dimanche dernier des croyants venus de 4 coins du Bénin et de la diaspora pour la célébration de la fête interreligieuse, appelée aussi fête de la fraternité. Une eucharistie a été célébrée à l'occasion par l'ordinaire du lieu, Monseigneur Aristide Gonzalo. Guido Suyovu pour nous en parler.
Ils sont des milliers de fidèles chrétiens catholiques, protestants, musulmans, chrétiens célestes, animistes, venus des 10 diocèses du Bénin, de la sous-région et même d'Europe et des États-Unis d'Amérique à se donner rendez-vous le dimanche 26 juin 2022 sur le stade de Kpejefa, commune de Semekpoli dans le diocèse de Porto Novo, pour vivre la fête de la fraternité entre les filles et fils de Houlenou. Il s'agit de la réédition du centenaire de la fête interreligieuse de la rencontre du frère ou Novicha à l'échelle diocésaine. C'est sous une pluie battante, en plein air et sous des bâches dressées ça et là, qu'ils ont vécu la messe catholique d'action de grâce, présidée par l'évêque du lieu, Monseigneur Aristide Gonzalo. Monseigneur Gonzalo s'est adressé aux jubilaires.
Plus qu'une fraternité, Novicha est au contraire un véritable creuset de vie entre frères et sœurs, dans l'amour, l'entente, l'acceptation de l'autre, la solidarité qui ne doit souffrir d'aucune insuffisance.
Guy Dosuyovo, Cotonou pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Les forces soudanaises ont de nouveau tiré vendredi des gaz lacrymogènes contre des centaines de personnes protestant à Khartoum contre le pouvoir militaire au lendemain de l'une des journées de manifestation le plus sanglante de l'année. Jeudi, au moins 9 Soudanais manifestant contre le coup d'état d'octobre 2021 du général Abdel Fattah al-Burhan ont été tués par les forces de sécurité selon des médecins pro-démocratie. La plupart des victimes, dont un mineur, ont été mortellement touchées par balles. Paris a annoncé vendredi la fin de la Task Force Takuba au Mali, une agrégation de forces spéciales européennes, victime collatérale des tensions avec le pouvoir de Bamako. Soulignons que les forces Barkhane et Takuba étaient chargées d'aider les forces maliennes à gagner en autonomie et leur permettre de reprendre pied dans les territoires délaissés par l'État face aux groupes djihadistes liés à Al-Qaïda ou au groupe État islamique. La Sierra Leone a mis en circulation vendredi de nouvelles pièces de monnaie et de billets de banque qui perdent 3-0 par rapport aux anciens en vue de rétablir la confiance dans un contexte d'importante inflation. Le coût des biens et services reste inchangé avec l'introduction de cette mesure, a indiqué la Banque centrale dans un communiqué. Un billet de 10 nouveaux léones a une valeur identique à celui d'un billet de 10 000 anciens léones, l'équivalent d'un peu moins d'un dollar américain, 75 centimes.
Radio Vatican, France-Afrique, Christian Combé.
Les dirigeants de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, seront dimanche à Accra, la capitale ghanéenne, pour un sommet lors duquel ils doivent statuer sur les sanctions concernant le Mali, la Guinée et le Burkina Faso, trois pays théâtres de coups d'État. Les leaders ouest-africains qui entendent peser pour un retour rapide des civils au pouvoir vont se pencher sur les vigoureuses mesures de rétorsion commerciale et financière infligées au Mali depuis janvier et sur celles moins lourdes du Burkina Faso et de la Guinée. Le président tunisien Kais Saied a fait publier jeudi un projet de constitution qui sera soumis à référendum le 25 juillet et accorde de vastes pouvoirs au chef de l'État, marquant une rupture radicale avec le système parlementaire en place. Le texte publié au journal officiel confirme la présidentialisation attendue du régime en stipulant que le président de la République exerce le pouvoir exécutif aidé par un gouvernement dirigé par un chef de gouvernement qu'il désigne. Ce gouvernement ne sera pas présenté au Parlement pour obtenir la confiance. Le journaliste burkinabé Newton Ahmed Barry a été menacé de mort dans un enregistrement audio relayé par les réseaux sociaux, suscitant la condamnation d'organisations nationales et internationales de défense de la presse. Sur l'enregistrement audio dont l'origine est inconnue, on entend une voix proférer des menaces et traiter notamment le journaliste de terroriste.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Donnons la parole à Stanislas Kambashi pour le magazine sur l'actualité internationale de la semaine.
Le président chinois Xi Jinping a loué vendredi la gouvernance de Hong Kong depuis sa rétrocession à Pékin, dont il célébrait le 25e anniversaire, et saluant une vraie démocratie selon lui, malgré la répression menée depuis 2 ans contre la dissidence. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a exprimé jeudi la solidarité de Washington avec la population de Hong Kong et déploré l'érosion de l'autonomie dans les territoires contrôlés par la Chine. Le premier ministre taïwanais Su Tseng-chang a estimé pour sa part que la liberté et la démocratie avaient disparu de Hong Kong. La Chine a réduit mardi de moitié la durée de la quarantaine obligatoire pour les voyageurs arrivant en Chine, un assouplissement majeur des restrictions d'entrée imposées par ces pays qui suit depuis le début de la pandémie une stricte politique sanitaire que Pékin a toutefois minimisée en évoquant un simple ajustement. Au moins 18 personnes ont été tuées lors des frappes sur des immeubles de la région d'Odessa dans le sud de l'Ukraine selon Kiev dans la nuit de jeudi à vendredi, au moment où l'armée vient d'y reprendre aux Russes un îlot stratégique pour la maîtrise des routes maritimes. Par ailleurs, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a annoncé mercredi mettre fin aux relations diplomatiques avec la Syrie après que le régime de Damas a reconnu l'indépendance des républiques séparatistes pro-russes de Donetsk et de Luhansk, soutenues par Moscou depuis 2014. Le nouveau président philippin Ferdinand Marcos Jr. a prêté serment jeudi après avoir remporté les élections les mois derniers par une victoire écrasante. Il succède à Rodrigo Duterte, célèbre à l'international pour sa guerre contre la drogue. La cérémonie publique des prestations de serment a eu lieu au Musée national de Manille devant des centaines de dignitaires locaux et étrangers dont les vice-présidents chinois Wang Qishan. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a de nouveau menacé de bloquer l'adhésion de la Suède et de la Finlande à l'OTAN moins de 48 heures après l'accord entre ces trois pays. Le Qatar a annoncé jeudi l'octroi d'une aide de 60 millions de dollars à l'armée libanaise dans le cadre de son soutien au pays dévasté par la pire crise économique de son histoire. Les députés israéliens ont voté jeudi la dissolution du Parlement, ouvrant ainsi la voie à des cinquièmes élections en moins de 4 ans et l'entrée en scène du centriste Yair Lapid comme premier ministre intérimaire. Après plus de 2 semaines de blocages et de violences ayant fait 6 morts, les gouvernements et les leaders autochtones d'Équateur sont parvenus à un accord jeudi pour mettre fin aux manifestations contre la vie chère qui paralysent les pays depuis plus de 2 semaines. Les pays producteurs de pétrole de l'OPEP ont reconduit jeudi leur objectif d'ouverture des vannes légèrement plus importantes pour cet été, mais cela ne suffira pas à freiner l'envolée des prix provoquée par la guerre en Ukraine. Plusieurs milliers de personnes ont manifesté jeudi à Udaipur, au nord-ouest de l'Inde, à l'appel d'organisations hindoues pour protester contre le meurtre d'un tailleur hindou, de nombreux participants demandant la peine de mort pour les 2 hommes musulmans accusés de l'avoir tué. La Cour d'assises spéciale de Paris a prononcé mercredi des peines allant de 2 ans d'emprisonnement à la perpétuité incompressible contre les accusés jugés depuis le 8 septembre au procès des attentats djihadistes du 13 novembre 2015 en France. La justice française s'est opposée mercredi à l'extradition des 10 anciens activistes italiens d'extrême gauche réclamés par l'Italie pour leur rôle pendant les années des plombs, un dossier qui empoisonne les relations entre les deux pays depuis 40 ans. Les États-Unis se sont dit mercredi déçus des négociations indirectes avec l'Iran sur le nucléaire entamées depuis mardi à Doha, où aucun progrès n'a été fait, selon Washington, qui estime ce cycle d'échanges achevé. Des experts jordaniens enquêtaient mardi au port d'Aqaba, dans le sud de la Jordanie, au lendemain de la mort de 13 personnes dans un accident provoqué par la chute d'un conteneur duquel s'est échappé du chlore, un gaz toxique. Un bateau avec plus de 200 Haïtiens à bord qui tentait de rejoindre les États-Unis s'est échoué sur la côte cubaine dans le centre nord de l'île où ils ont été secourus par les autorités, a annoncé mardi le quotidien officiel Gramma. Les 27 pays de l'Union européenne se sont mis d'accord lundi sur les objectifs contraignants pour réduire leur consommation d'énergie et accélérer l'essor des renouvelables, mais ont reporté à plus tard les ajustements jugés nécessaires pour mettre fin à leur indépendance vis-à-vis de la Russie. Et les députés britanniques ont adopté lundi en première lecture une révision des dispositions douanières post-Brexit en Irlande du Nord, jugée illégale par l'Union européenne, qui a déjà amorcé sa riposte.
Faisons place à Marie-Josée Moindo pour la rubrique sur l'environnement.
Commençons notre rubrique par la rencontre sur les océans qui vient de se tenir à Lisbonne, au Portugal. Des milliers de responsables politiques, d'experts et défenseurs de l'environnement se sont rassemblés depuis lundi 27 juin à Lisbonne à l'appel de l'ONU pour œuvrer à la préservation de la santé fragile des océans et éviter les effets en cascade qui menacent l'environnement et l'humanité. L'océan joue un rôle clé pour la vie sur Terre en mitigeant les impacts du changement climatique. Voilà ce qu'en dit Christian Buchier, universitaire français, conférencier et auteur en la matière.
Il y a une nouvelle manière de se comporter avec la nature. D'abord, j'avais piloté en son temps en France, qu'on avait appelé le Grenelle de la mer, qui a défini les contours d'une nouvelle politique. Et les 327 experts réunis pendant 2 ans l'ont montré. Sans la mer, et c'est vrai dans tous les pays, on ne passe pas. Pourquoi ? Parce que en 2050, c'est-à-dire au pic démographique, sur une population qui fera à peu près 10 milliards 6 de terriens, 80% de cette population va se trouver concentrée sur une bande littorale mondiale de 75 km de largeur. Donc, vous voyez, sans la mer, on ne passe pas. Pourquoi ? Parce que la mer contient tout ce dont nous avons besoin et au-delà même de ce qu'on peut imaginer, c'est certainement l'une des plus formidables promesses offertes aux hommes, ce qui suppose une nouvelle manière. Quand je dis ça, et c'est ce que j'ai développé dans mon livre « Osons la mer », c'est pas pour aller exploiter, c'est pas pour aller piller, c'est pas pour aller servir. Je pense que la mer nous ouvre à un autre comportement, à une autre vision du monde, de notre avenir et peut-être de notre rapport avec la nature. D'abord, il faut rappeler que la mer, c'est pas rien, c'est 72% de la surface du globe, 361 millions de kilomètres carrés, et c'est le seul univers à 4 dimensions. Vous avez bien sûr la surface, ça fait des millénaires qu'on se promène dessus. Vous avez une deuxième dimension, c'est la tranche d'eau, la colonne d'eau, c'est-à-dire la profondeur d'eau de la mer qui descend jusqu'à 11 kilomètres dans la fosse des Mariannes. Troisième dimension de la mer, 72% des terres de la planète Terre sont des terres immergées, qu'on ne connaît pas. On connaît de manière précise 5% seulement d'entre elles, de manière un petit peu vague 15 autres %. C'est-à-dire qu'on connaît mieux aujourd'hui la surface de Mars. Et puis il y a une quatrième dimension à la mer. On sait maintenant depuis quelques années, c'est assez récent, que la biodiversité du sous-sol terrestre marin est différente de la biodiversité du sous-sol terrestre.
Le chercheur français Christian Buchier au micro de Claire Riobé. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a jugé jeudi par la voix d'un porte-parole que l'arrêt de la Cour suprême américaine limitant les moyens de l'État fédéral de lutter contre le réchauffement climatique marquait un recul dans la lutte contre la crise environnementale. Dans son arrêt rendu jeudi, la Haute Cour a estimé que l'Agence américaine pour la protection de l'environnement ne pouvait pas édicter de règles générales pour réguler les émissions des centrales à charbon qui produisent près de 20% de l'électricité aux États-Unis. Cette décision, qui pourrait plus largement compliquer tous les efforts de régulation de l'État américain, a été jugée catastrophique par l'exécutif américain et des organisations de défense de l'environnement. Toujours aux États-Unis d'Amérique, la Californie s'est dotée jeudi d'une loi visant à réduire de manière spectaculaire les emballages plastiques non recyclables et le polystyrène expansé d'ici 10 ans, un effort qu'il appartiendra aux industriels eux-mêmes de mettre en œuvre et de financer au terme de cette législation. La loi s'attaque aussi à la pollution des emballages alimentaires en polystyrène expansé, fréquemment utilisé aux États-Unis dans la restauration à emporter pour les gobelets ou les plats. À moins que les producteurs ne soient capables de prouver qu'au moins 25% de ces emballages sont recyclables d'ici 2025, ils ne pourront plus du tout être utilisés dans l'État. Pour les défenseurs de l'environnement, cet objectif est impossible à atteindre, ce qui revient pour eux à une interdiction de fait des emballages alimentaires en polystyrène. Au terme de 6 jours de travail acharné à Nairobi au Kenya, quelques progrès ont été réalisés pour préparer la COP 15 biodiversité, mais un travail important reste à accomplir en moins de 6 mois de cette rencontre internationale cruciale. Cette réunion à Nairobi devait permettre au moins en partie d'aplanir des différends entre les 196 membres de la Convention pour la diversité biologique de l'ONU pour arriver à la COP 15 à Montréal en décembre avec un texte ambitieux et un nombre le plus limité possible de points d'achoppement restant à régler. Des progrès ont été faits, limités, a commenté Elisabeth Marouma-Mbrema, secrétaire exécutive de cette institution lors de la conférence de presse finale.
Vaccin pour tous.
Début de la campagne Vaccination pour tous qui durera jusqu'au 30 septembre. Stanislas Kambashi.
Nous commençons aujourd'hui une campagne de sensibilisation et d'information à la vaccination. Jean-Charles Pouzoulou, pouvez-vous nous en parler?
Alors, il s'agit d'une campagne qui va durer 3 mois sur notre antenne, dans toutes les émissions, du lundi au vendredi, pour expliquer aux gens ce qu'ils ont à gagner en se faisant vacciner. On a vu que le monde occidental avait bénéficié des 3 premières doses, 4 pour certains, de vaccination. Aujourd'hui, nous nous concentrons sur le continent africain parce que, comme a dit le pape François, personne ne se sauvera seul.
Alors, cette campagne est destinée à 2 pays, la Côte d'Ivoire et la République centrafricaine. Pourquoi avoir choisi seulement ces 2 pays?
Alors, seulement ces 2 pays dans un premier temps, parce que rien ne nous empêchera ensuite de nous concentrer sur d'autres réalités. Nous travaillerons avec des correspondants dans ces 2 pays. Principalement, c'est l'Afrique francophone que nous visons, parce que par rapport à l'Afrique anglophone, les statistiques nous disent qu'elle a été un petit peu délaissée. Alors, voilà pourquoi nous parlerons principalement à ces 2 pays pendant 3 mois.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
Mesdames et messieurs, amis auditeurs, c'est ici que s'achève cette édition de notre programme que Christian Kombé a eu le plaisir de vous présenter. Et merci à vous de l'avoir suivi avec attention. Le prochain rendez-vous, c'est demain, même heure, même fréquence et même radio.